Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Et Simon Martin est à la technique. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une très belle histoire. L'histoire de la guérison d'un aveugle né par Jésus. Et cette histoire, nous la trouvons dans le chapitre 9 de l'Évangile de Jean. C'est le même le chapitre 9 en entier. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla, il se lava et à son retour, il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient « N'est-ce pas celui qui était assis à mendier ?» Les uns disaient « C'est bien lui !» D'autres disaient « Mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble !» Mais l'aveugle affirmait « C'est bien moi !» Ils lui dirent donc « Et alors, tes yeux, comment se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». Alors, moi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent « Où est-il celui-là » Il répondit « Je n'en sais rien ». On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. » Parmi les pharisiens, les uns disaient « Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. » Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ?» Et c'était la division entre eux. Alors ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, les Juifs refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue. Ils posèrent cette question aux parents. « Cet homme est-il bien votre fils dont vous prétendez qu'il est né aveugle ? Alors, comment voit-il maintenant ?» Les parents leur répondirent « Nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Comment maintenant il voit, nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux, nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand, qu'il s'explique lui-même à son sujet. » Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ceux-ci étaient déjà convenus d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le. »
Une seconde fois, les pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il leur répondit « Je ne sais si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi ?» Les pharisiens se mirent alors à l'injurier, et ils disaient, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « C'est bien là, en effet, l'étonnant. Que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. » Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils ripostèrent : « Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il vint alors le trouver et lui dit : « Crois-tu toi aussi au Fils de l'homme ? » Et lui de répondre : « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » L'homme dit : « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors : « C'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent : « Est-ce que par hasard nous serions des aveugles, nous aussi ? » Jésus leur répondit : « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent vous dites : « Nous voyons », votre péché demeure. »
Stugam tua parate mammone, Kyrie gluda visu, Lodi droigum babone, Tramindu in paraiso, Ed estrasi ad abastanza, Per estanta visava la danza. Per la parola mia, tu dalla mano la sera, te niega le dalla zia, anco a lume di lumera. Barsamau a notte di orno, lumo scudi ludo vorno. Rispondoni di amma, cuso riso d'una santa, era una seconda mamma, con la base e il saramanta, accanto si stavo a vidu, come l'agello in un
d'entendre donc cette merveilleuse histoire de la guérison d'un aveugle né. C'est ce long chapitre de l'évangile de Jean, ce chapitre 9, qui commence et qui se termine avec le verbe « voir ». Au premier verset, Jésus vit. C'est un beau commencement pour un récit de guérison d'un aveugle. Et le chapitre se termine sur cette phrase terrible adressée aux pharisiens : « Vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. » Le chapitre commence par une question sur le prétendu lien entre la cécité et le péché et se termine sur le vrai péché de ceux qui prétendent être voyants.
Jésus donc vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Si nous voulons nous adresser à un aveugle, établir avec lui une relation de confiance et d'amour, c'est à nous, bien sûr, de nous approcher de lui et de le voir. D'emblée, la signification symbolique du récit est annoncée. Jésus est celui qui voit l'aveugle. Il est celui qui nous voit dans notre cécité, dans notre infirmité. Il s'approche de nous, sans peur, sans complexe et sans jugement. Ses disciples lui posent la question habituelle, selon l'équation ancienne, mais non disparue hélas encore aujourd'hui, maladie ou malheur égale faute et péché. Et ils lui disent donc : « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?»
Une note de la TOB, donc c'est la traduction œcuménique de la Bible, nous indique que, même dans le cas des infirmes de naissance, certains rabbins attribuaient la faute aux parents, mais d'autres à l'enfant lui-même, au cours de la gestation. On connaît aussi la protestation véhémente de Job contre ses amis qui, de bonne foi sans doute, l'invitait à reconnaître ses péchés pour être débarrassé de ses malheurs et de sa souffrance. « Si tu es dans cet état, si tu es malade, c'est que tu es frappé, c'est que tu es coupable. Qui a péché pour que des individus ou des peuples entiers connaissent la misère, la famine, l'oppression et la torture ?»
Cette histoire de guérison d'un aveugle-né est un magnifique exemple de la libération et de ces culpabilités que nous portons encore sans doute sournoisement en nous. Car Jésus refuse absolument d'entrer dans ces conceptions superstitieuses de la culpabilité. Il refuse même de répondre à la question un peu perfide de ses disciples. Et il va même, à la fin du chapitre, renversement complet, et avec un humour terrible, renverser la proposition de l'équation péché-maladie. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Puis à la fin, aux pharisiens, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais à présent vous dites « nous voyons ». Aussi votre péché demeure. »
L'évangile n'est pas accusation, mais libération et guérison, malgré ce que trop longtemps les églises ont prêché. L'évangile veut nous libérer de la pire des accusations, qui est peut-être l'auto-accusation. La désespérance à laquelle veut nous acculer dans le malheur Satan, dont le nom signifie « accusateur ». Non, nous ne voulons pas être complices de cet accusateur sournois. Nous ne voulons pas nous résigner au malheur, à la misère, à la torture. Nous pouvons lutter, nous dit Jésus. Nous pouvons aider, nous pouvons aimer. Peut-être même parfois nous révolter, car la révolte peut être facteur de libération.
La révolte de Job était une révolte saine. Jésus lui-même va se révolter contre le malheur qui frappe cet homme aveugle de naissance et qui en avait été réduit à l'époque à la situation dégradante de mendiant. Ce n'est pas, dit-il à ses disciples, que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. L'évangile n'est pas résignation, mais lutte, prière et espoir. Au lieu d'accuser avec les accusateurs, au lieu de mépriser, de se résigner, Jésus annonce qu'il y a là quelque chose à faire, une lutte concrète, spirituelle, à mener. Avant même de parler de miracle, de lumière, Jésus parle d'action et d'œuvre.
Il y a toujours quelque chose à faire. Il faut que soient manifestées les œuvres de Dieu, dit Jésus. Manifester, c'est-à-dire que l'action devienne claire et manifeste. Jésus est donc prêt à se mettre à l'ouvrage. Il nous faut, dit-il, travailler, faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. J'aime bien cette réponse qui précède et annonce le miracle. Le vrai miracle, le début du miracle, c'est cette réponse de Jésus. Ce nom opposé au fatalisme, à la résignation, à la culpabilité démobilisante. Qui a péché ? Ce n'est pas la bonne question, répond Jésus.
Nous ne devons pas fuir celui qui est en train de mourir d'une maladie grave. Le cancer ou le sida ne sont pas une malédiction divine. Ne pas fuir, ne pas abandonner, que les médecins n'abandonnent pas les mourants à partir du moment où ils estiment qu'ils ne peuvent plus rien faire pour eux, car ils peuvent toujours faire quelque chose. Et cela n'est pas valable que pour les médecins, ni pour les seuls cas de maladie. Faudrait-il baisser les bras devant la torture, le terrorisme, la famine ou le chômage ?
Perdona, Pia Dei.
Que les œuvres de Dieu, dit Jésus, deviennent claires, manifestes, visibles. Car il fait encore jour et on peut encore travailler. On peut encore lutter, on peut encore espérer. Tant que je suis dans le monde, dit Jésus, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est sans doute l'une des affirmations capitales de Jésus dans l'évangile de Jean. Comme « Je suis le bon berger ». Où je suis la résurrection et la vie, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Je suis la lumière du monde. Cette énorme affirmation du verset 5 vient tout de suite après le verset précédent où il dit « Il me faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, car la lumière sert à travailler. » Lumière et vie, lumière et guérison. La guérison de l'aveugle est un signe que Jésus apporte la lumière dans le monde. Je suis la lumière du monde. Les miracles de Jésus, les guérisons en particulier, ne sont jamais des actes magiques. Ils sont un message et une espérance. C'est le mot « séméion », signe, que Jean emploie généralement dans son évangile en parlant des miracles de Jésus. Les miracles, nous dit Jean, sont des signes que Dieu n'a pas abandonné le monde à ses peurs, à ses ténèbres et à son désespoir. Il a envoyé Jésus lumière pour éclairer le monde, pour y travailler, lumière pour que les aveugles voient, pour que des signes d'évangile, d'espérance et d'amour, de joie soient visibles.
Le premier miracle de Jésus raconté par l'évangile de Jean au chapitre 2, rappelez-vous, il est celui de l'eau changée en vin. Miracle de la joie et de la fête, signe qu'une fête nouvelle, la fête messianique, venait de commencer. Ce fut là, dit Jean, à Cana, le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Le récit lui-même de la guérison de l'aveugle-né, en ce chapitre 9 de Jean, est simple, sobre et beau. Le signe qui est donné est concret, un peu terre-à-terre même, si j'ose dire. Jésus crache par terre, malaxe une boue avec sa salive et de la terre et l'applique sur les yeux du malade. Geste du Créateur. Comme dans la Genèse, lorsque Dieu créa l'homme à partir de la terre, de la poussière du sol. Le geste de Jésus est aussi un geste humble de travailleur, de potier. Du reste, on l'accusera d'avoir travaillé un jour de sabbat, c'est-à-dire d'avoir enfreint le commandement du repos prescrit pour le sabbat.
Il cracha à terre, il pétrit la boue, il l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit « Va te laver dans la piscine de Siloé ». Après le thème de la lumière, voici avec la piscine le thème de l'eau, cher à Jean également. Ici on retrouve sans doute le symbolisme du baptême. Avec la mention de l'eau de cette piscine où il fallait que l'aveugle aille se laver, comme cela avait été ordonné un jour par le prophète Élisée à Naaman le Syrien.
Be born again.
Les extraits musicaux pendant l'émission sont des extraits du CD de Beauchamp Polyphonique Corse, le CD qui s'appelle Meridiano. Donc l'aveugle-né a vécu sa guérison en quelque sorte comme un baptême. L'initiative vient de Dieu. C'est Jésus qui a vu l'aveugle et qui lui a appliqué la boue créatrice. Mais il lui a demandé pourtant d'aller se laver à la piscine de Siloé et l'aveugle y est allé. Toute cette histoire est en quelque sorte l'histoire d'un baptême où le baptisé reçoit guérison et vie nouvelle, où il reçoit la lumière, où il fait l'expérience merveilleuse d'une nouvelle naissance. Ensuite seulement, il sera appelé lui-même à une sorte de conversion, de témoignage, de recherche spirituelle. Mais la nouvelle naissance a commencé peut-être et sans doute même avant la conversion.
La conversion n'est souvent que réponse. Obéissance, reconnaissance et adoration. L'amour de Dieu est toujours premier. La grâce est première. Pourtant, Jésus demanda à l'aveugle d'aller à la piscine de Siloé, c'est-à-dire d'accepter de marcher vers ce salut qui lui a été proposé. Ensuite, une fois guéri, il lui sera demandé de répondre à l'étonnement et aux questions de son entourage. Même aux questions quelque peu sceptiques, quelque peu malveillantes ou franchement méprisantes, l'aveugle guéri est appelé à témoigner, à rendre compte et à raconter.
Ses voisins et ses parents lui demandent « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» L'homme guéri ne sait pas très bien répondre. L'homme guéri ne sait plus grand-chose de Jésus, ne sait pas grand-chose sinon le nom qu'on lui donne. L'homme appelé Jésus m'a appliqué de la boue sur les yeux. L'homme appelé Jésus, rien de plus pour l'instant. Alors je me suis lavé dans la piscine et j'ai recouvré la vue. N'est-ce pas là pourtant un magnifique témoignage, tel que peuvent le rendre des baptisés, tel que nous pouvons le rendre nous aussi? Je me suis lavé et je vois.
Puis ce sont les pharisiens qui viennent le questionner, l'ennuyer, contester son expérience et sa joie. Comment as-tu recouvré la vue? Du reste, ils ne sont pas d'accord entre eux. Certains disent « Cet homme ne vient pas de Dieu, il ne respecte pas le commandement du sabbat. Il a pétri de la boue un jour de sabbat, il est donc pécheur. Il n'est pas assez conformiste, il sort des sentiers battus, il conteste nos lois. »
Et d'autres, parmi les pharisiens, disent « C'est impossible qu'il soit pécheur, car il ne pourrait pas alors faire tous ces miracles, tous ces signes. Le mot « signe » est employé à nouveau ici pour « miracle ». Puis c'est la question directe, « Et toi, toi l'aveugle guéri, que dis-tu à son sujet ?» Exactement la même question que Jésus posa un jour à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» La réponse de l'aveugle guéri est à la mesure de ce qu'il connaît, c'est un prophète. Définition insuffisante encore, hésitante et incomplète.
Per te osi deleto, devo ogni appena, che ti diamo in egola. Ad oida di strati, fuora longa cadena, che non ci saua di minà. Er un babbo, una mamma, un zio, una mamma, pronta scutati rossi di golfi mio maio. Porca assassine, facce di branca rosso, l'uomo canto rispodadoso. Per te osi deletto, manco di noi, chi ti ama in igola. E rido per te, che l'ali dai passi senza pietà la morte, e chi presto l'inferno gli spara anche le volte. So parole spietate, ma la tu di non posso, l'uomo canto rispodadoso.
L'homme guéri affrontera alors à nouveau le tribunal des pharisiens, leurs moqueries, leur colère et leur mépris. Ils voudront même le ramener à sa situation antérieure d'homme considéré comme pécheur, puisqu'aveugle, selon leur conception culpabilisatrice de la maladie, alors même qu'il constate qu'il est guéri, qu'il n'est plus aveugle. Tu es né tout entier dans le péché et tu prétends nous enseigner ? Comme il est difficile de se sortir de ces situations de désespoir où votre entourage ne vous aide pas. Au lieu de vous libérer, ils vous enfoncent dans votre malheur, dans l'idée qu'ils se sont faites et que vous vous êtes faites aussi parfois de vous-même.
Il faut que l'aveugle guéri rencontre à nouveau Jésus, qu'il entende à nouveau une parole autre, un évangile de libération. À la fin de l'histoire, c'est Jésus qui, à nouveau, en dernier, retrouve l'aveugle guéri et se révèle à lui comme le Messie, comme le libérateur. Crois-tu au Fils de l'homme, c'est-à-dire à l'envoyé de Dieu, au Messie, au Sauveur ? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Et cette réponse admirable de Jésus pour un homme libéré, réhabilité, pour un aveugle guéri, qui a retrouvé la lumière et la vision, tu le vois, c'est celui qui te parle. Tu le vois, tu n'es plus aveugle.
C'est pour dire cette parole de guérison, cet évangile de libération, que nous sommes envoyés à notre tour. Guéris, nous annonçons la guérison aux autres. Pardonnés, nous annonçons le pardon. Libérés, nous luttons pour la libération de tous les prisonniers, de tous les torturés, de tous les opprimés. Car il fait encore jour et il est encore temps pour travailler. Pour que les aveugles voient, pour que les aveugles croient. Alors l'aveugle dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna. Amen. Cette émission se termine. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au Temple, 20 rue Saint-Thomas à Chartres, et que nous serons très heureux de vous y accueillir. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Quoi?